Bon début de soirée à l'écoute d'Europe 1. Il est 19h.
Vu le communiqué du PSG, ça me paraît compliqué qu'il puisse jouer contre l'Atalanta.
Le pessimisme de l'ancien international Renal Pedros. Oui, c'est bel et bien une entorse dont souffre Kylian Mbappé, qui aura peu de chances de disputer le quart de finale de Ligue des Champions contre Bergame.
Péage gratuit pour les trains et relance de 3 autoroutes ferroviaires dans le pays. Jean Castex présente son plan pour relancer le fret ferroviaire en France.
La ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher apporte son soutien sur place aux 400 salariés de Nokia à Lannion en Bretagne qui risquent de perdre leur emploi. Dernier commerce de proximité, les bureaux de tabac autorisés bientôt à recouvrer l'impôt. La CGT dénonce une privatisation rampante. La Bourse de Paris en légère baisse, moins 0,34% à 4 939 points.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Au programme de ce mardi, la baisse des températures, la baisse des maximales avec 4 à 5 degrés de moins qu'aujourd'hui. Des valeurs aux alentours de 34 à Chambéry, 33 à Lyon, 30 degrés à Toulouse contre 40 aujourd'hui et 27 en région parisienne. Pour le ciel, c'est nuageux absolument partout. Je vous reparle de tout ça dans le détail tout à l'heure, comme d'habitude.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Thierry Dagiral, François Clos.
Des masques trop chers, des désinfectants frelatés, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en dressant ce matin son bilan annuel à Bercy, a précisé avoir effectué 41 600 contrôles pour traquer Olivier Samin toutes les arnaques liées à l'épidémie.
Oui, des contrôles d'abord pour repérer les produits non conformes, qu'il s'agisse des masques, aussi bien chirurgicaux que grand public, avec à la clé 1300 avertissements, qu'il s'agisse aussi des gels hydroalcooliques. Là, comme l'explique Virginie Beaumenier, la directrice de la DGCCRF, les laboratoires de l'administration ont été mis à contribution.
On fait aussi des prélèvements pour s'assurer que les gels sont bien protecteurs et en particulier qu'ils ont bien la dose d'alcool nécessaire. Vous savez que ça doit faire plus de 60%. Et donc on a procédé à 12 retraits rappels de produits qui ne respectaient pas cette règle.
Deuxième champ d'investigation pour la DGCCRF, les prix des masques et du gel et, dans le prolongement, l'apparition sur le marché de produits prétendument miracles.
Globalement, c'est plutôt bien respecté l'encadrement des prix. Il y a quand même parfois des petits dérapages sur les gels en particulier. Et puis on a aussi ciblé sur tout ce qui était arnaque pendant le confinement, les ventes sur Internet de faux compléments alimentaires qui protègent, de fausses lampes qui stérilisent. Voilà.
Pour mener toutes ces enquêtes, la répression des fraudes n'a pas agi seule dans son coin. Très rapidement, après l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, une task force a été mise en place à Bercy avec les douanes et la gendarmerie, avec pour objectif, entre autres, de partager les signaux faibles repérés sur le terrain.
Merci Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Voilà une bouffée d'oxygène parmi les mauvaises nouvelles autour de l'épidémie. Le ministre délégué au commerce extérieur annonce que les foires et salons professionnels vont pouvoir rouvrir en France dès le 1er septembre.
Et ça y est, le fret ferroviaire bel et bien sur les rails.
Promesse exprimée, on s'en souvient, par le président de la République lui-même le 14 juillet que le Premier ministre Jean Castex a souhaité concrétiser cet après-midi en esquissant ses grands projets, réduction des frais de péage sur les autoroutes ferroviaires et relance, Jean-Gabriel Bourgeois, de 3 grandes lignes totalement consacrées aux marchandises.
Oui, le gouvernement continue de verdir son plan de relance avec des annonces très concrètes pour le fret ferroviaire. Cet après-midi, le Premier ministre a dévoilé de premières mesures marquantes de ce qu'il appelle un plan de reconquête ferroviaire pour rendre le rail plus attractif. Jean Castex.
Il y a des péages pour emprunter les sillons, c'est-à-dire les voies que les trains de marchandises empruntent avec les trains de voyageurs. Donc nous avons décidé de la gratuité de ces péages jusqu'à l'année de la fin de l'année 2020 et une division par deux en 2021 du prix de ces péages.
La mesure va coûter 63 millions d'euros par an au gouvernement. L'État espère ainsi diminuer le nombre de poids lourds sur les routes. 20 000 camions en moins en 2021, soit une réduction de 425 000 tonnes de CO2. Autre mesure annoncée, la création d'autoroutes ferroviaires, des liaisons entre Bayonne et Cherbourg, entre Sète et Calais, mais également le fameux train des primeurs entre Perpignan et Rungis, qui s'est arrêté il y a quelques semaines. Le Premier ministre souhaite la redémarrer et la prolonger d'Anvers jusqu'à jusqu'à Barcelone. Des appels à projets seront lancés d'ici la fin de l'année.
Merci Jean-Gabriel Bourgeois du service politique d'Europe 1.
Nous ne laisserons pas l'agneau mourir à petit feu. C'était le commentaire dès ce matin de la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher.
Oui, parce que l'annonce d'un plan social par le géant finlandais des télécoms, présent sur les marchés pourtant très porteur de la 5G et de la cybersécurité, passe mal. 1200 emplois menacés en France, dont 400 pour le seul site de Lannion en Bretagne. La ministre est donc allée cet après-midi à la rencontre des salariés, tentant de répondre tant bien que mal à l'inquiétude et au désarroi. Écoutez cet échange capté par notre reporter Johanna Chabas.
C'est pas 402 emplois qu'il faut sauver, c'est tout le site. Là, certains sont concernés, d'autres non pour l'instant, mais tout le monde a compris ça. Mais nous, on a mis notre tripes dans cette région. On y est, quoi. Donc s'il vous plaît, faites quelque chose.
On est là pour justement faire en sorte que vous restiez dans cette région, la région que vous avez choisie, la région où vous faites grandir vos enfants. Et il faut qu'on se batte sur ça. Et moi, je suis complètement d'accord avec vous. Moi aussi, j'ai des enfants. Moi aussi, j'ai envie de choisir l'endroit où ils grandissent.
Et j'ai vraiment envie de leur donner un avenir, pas leur dire on doit déménager.
La question, c'est quelle est leur stratégie. Et c'est pour ça que cette stratégie, on doit être à l'aise avec, ou alors... reconstruit quelque chose avec les compétences. C'est vraiment, je crois, dans cette direction.
Merci.
On compte sur vous.
Voilà cet échange capté donc par Johanna Chabas cet après-midi. Paradoxe, le chômage en France est en baisse de 4,6% au mois de juin pour tous ceux qui n'ont absolument pas trouvé d'emploi. Si on tient compte des demandeurs d'emploi qui ont eu une activité, le chômage, lui, est en hausse de 0,5% dans notre pays. Affrontement militaire à la frontière nord d'Israël cet après-midi. Israël qui prétend avoir déjoué une tentative d'infiltration terroriste. Le Hezbollah, de son côté, depuis Beyrouth au Liban, dément toute participation à ces accrochages.
Il est 19h06. Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, François Claus, Thierry Dagirel.
Des bureaux de tabac prêts à collecter l'impôt, la CGT s'offusque. Mbappé peut-être pas prêt pour la Ligue des Champions. L'inquiétude du PSG. A tout de suite.
Journal sur Europe 1, François Claus, Thierry Dagiral.
Régler le solde de ses impôts en achetant son paquet de cigarettes, ce sera bientôt possible presque partout en France.
Et en clair, permettre aux bureaux de tabac, souvent ultime commerce ouvert dans bon nombre de nos communes, d'encaisser les frais de cantine, les frais d'une hospitalisation, d'une crèche, voire d'un retard d'impôt. Cette expérience avait été tentée dans 18 départements. Le gouvernement veut la généraliser sur notre territoire. 5000 parmi les 24 000 bureaux de tabac de France se substitueront donc demain en partie aux fameuses trésoreries. Bonne idée, pensez-vous immédiatement. Pas si simple si l'on entend les arguments de la puissante fédération CGT des finances par la voix de sa secrétaire générale Fanny de Coster.
C'est encore la privatisation d'une mission que nous on considère régalienne puisqu'il s'agit quand même de l'encaissement des recettes publiques qui sont les impôts et les taxes, les cantines, etc. et qui va donc être privatisée auprès des buralistes.
Mais la Direction générale des finances publiques dit que cette opération va accentuer la proximité du service auprès des usagers parce qu'il y a plus de buralistes qui vont offrir ce service qu'il n'y a aujourd'hui de trésorerie de l'administration.
Oui, ben en fait, quand on veut dire que son chien a la rage, on le rend d'abord malade. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il supprime de plus en plus de centres de finances publiques depuis des années. Donc forcément, à terme, il y aura plus de buralistes que de centres de finances publiques, effectivement. Alors nous, on se bat contre ces fermetures, évidemment, avec beaucoup d'élus locaux, d'ailleurs, en général, qui sont contre ces fermetures aussi. Donc dire que ce sera pour un service plus proche des citoyens, pour cela, il faudrait peut-être pas juste supprimer le service public de proximité.
La secrétaire générale de la CGT Finance, Fanny de Coster, interrogée par Olivier Samin.
Et puis François, ça y est, le diagnostic est confirmé pour Mbappé, c'est bien une entorse à la cheville.
Oui, on se souvient de ce choc avec le défenseur stéphanois à Perrin lors de la finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne. Le communiqué du PSG est tombé cet après-midi, évoque, je cite, un délai de reprise d'environ 3 semaines. Alors bien sûr, tout est dans le « environ », mais ça risque d'être compliqué pour lui, justement, à 3 semaines pile du quart de finale de Ligue des Champions à Lisbonne contre l'Atalanta Bergame. Écoutez ce que disait à Cyril de la Morinerie l'ancien international Reynald Pedros.
Si la reprise de la course est dans 3 semaines, oui, il faut faire une croix dessus. 3 semaines suite à une entorse avec le ligament touché, ouais, c'est un peu plus important que ce qu'on pouvait penser. Maintenant, j'ai eu moi pas mal d'entorses. On s'en remet bien. Après, il faut voir aussi si on ne revient pas trop tôt. Que généralement, quand on aggrave une blessure, c'est quand on veut revenir trop tôt et que derrière, il y a des conséquences. Est-ce que le PSG va prendre un risque peut-être à un moment donné pour dire voilà, on a absolument besoin de lui, donc On va le faire jouer peut-être avec une infiltration pour faire en sorte qu'il ne sente plus du tout son ligament. En tout cas, vu le communiqué du PSG, ça me paraît compliqué qu'il puisse jouer contre l'Atalanta.
Voilà ce que disait donc Renan Pedro. C'est le 12 août prochain, et on se souvient, c'est le tournoi final de la Ligue des Champions cette année, et ce sera contre l'Atalanta Bergame. À suivre, comme on dit.
Merci beaucoup, François Claus. Tiens, quelques rendez-vous à venir. 19h20, on va parler de la PMA. L'examen vient juste de débuter. On sera avec le médecin Catherine Dolto. 19h30, tube d'été, et puis la culture. Et puis à 19h40, 12 France, hein, c'est tous les soirs. On se balade dans nos belles régions. On sera en Bourgogne ce soir.
Et tous les soirs, sur Europe 1, à la fin du journal de 19h, Thierry, ce rendez-vous d'été, la bonne idée.
Et on tire un coup de chapeau tous les soirs à une initiative. Bonsoir Étienne Chauffour.
Bonsoir.
Vous êtes directeur en charge de l'éducation et des solidarités chez France Urbaine et en association avec les maires ruraux. Vous faites partir des mômes en vacances. Racontez-nous.
Exactement. Alors, on fait partir des mômes en vacances avec, en fait, quelque chose de tout simple. On s'est dit qu'on avait, dans les territoires urbains, beaucoup d'enfants qui ne pourraient pas partir en vacances parce que les séjours étaient annulés, les conditions de transport étaient incertaines, et qu'on avait dans nos territoires ruraux beaucoup de solutions de vacances qui peut-être permettaient simplement de prendre des vacances très sympas à quelques kilomètres d'une grande ville. Donc,
mais c'est un échange du coup d'enfants de la ville contre des enfants des champs, on va dire.
C'est même pas un échange, c'est simplement les maires ruraux qui nous ont dit, écoutez, on sait que vous aurez des difficultés pour que les enfants partent en vacances parce qu'à cause du déconfinement, il y aura des centres qui seront fermés. Mmh. Et chez nous, on a des solutions que vous ne connaissez peut-être pas, donc on va les recenser département par département et on va les mettre à votre disposition.
C'est ça.
Dans certains territoires, ils ont dit ça nous intéresse, dans d'autres, ils n'en avaient pas besoin, mais ça permet de multiplier les vacances possibles.
C'est bien. C'est quoi ? Il y a un million, c'est ça, un million d'enfants qui ne peuvent pas partir en vacances cet été ?
C'est à peu près ça, et avec des difficultés d'autant plus fortes que de multiples endroits de séjour, en fait, n'ont pas pu être déconfinés à temps. Donc, beaucoup de colonies de centres de vacances ont été annulées. Donc, et on voulait que, pour tout le monde, ça reste des vacances, à plus forte raison après la crise, que l'on puisse vraiment en profiter, quoi, qu'on ait des loisirs, du tourisme.
On connaissait les vacances apprenantes. Vous parlez de vacances vacançantes ?
Oui, c'est pas pour les opposer. Je pense qu'il y a peut-être des vacances apprenantes, mais en même temps, les vacances vacançantes, c'est l'idée que un enfant, un jeune, alors à plus forte raison, si l'école, c'est pas obligatoirement ce qu'il préfère, si on lui dit vous ne pouvez prendre des vacances que si vous apprenez, on pensait que c'était un tout petit peu trop limité. Ouais. Et donc nous on a dit il faut les vacances apprenantes pour ceux qui le souhaitent, mais il faut aussi des vacances vacançantes et pourquoi pas des vacances en famille avec les chèques vacances, avec des idées où l'enfant peut partir avec sa famille malgré la situation financière et la crise.
Ouais. Étienne Chauffour, dernier point pour être complet, il est encore temps de s'inscrire, comment ça se passe, où ?
Alors, il est encore temps de s'inscrire dans la plupart des mairies. Ouais. Donc, c'est géré en général au niveau de la mairie de la grande ville, mais ça peut être également géré dans la mairie d'un village. Il est encore temps de s'inscrire, d'autant que là aussi, une des idées qui était intéressante, c'est de dire on n'aura peut-être pas la possibilité de partir 3 semaines, mais peut-être 5 jours. Et déjà, 5 jours à la campagne, au bord d'un lac, d'une rivière, c'est fabuleux.
C'est essentiel pour ces enfants. Merci à vous. Bravo à vous.
Merci.
Merci à vous, Étienne Chauffour de France Urbaine.
Bonne soirée.
Merci. La météo tout de suite. Valérie Darmon, la météo, attention aux orages. Hein.
Oui, attention aux orages. Les orages les plus forts demain éclateront de l'Isère au Savoie jusqu'au Jura. Ces orages qui seront isolés, notamment sur les reliefs. Et ce mardi matin, les premières averses orageuses remonteront du golfe de Gascogne vers l'Auvergne. Et dans l'après-midi, au contact de l'air très chaud qui remonte de Méditerranée vers justement Auvergne-Rhône-Alpes, l'activité orageuse va se renforcer de l'est du Massif central aux Alpes jusqu'au Jura. Ailleurs, ce sera de toute façon nuageux quasi partout, sauf des Charentes à la Lorraine et sur le pourtour méditerranéen.
L'autre information du jour, c'est quand même les températures en baisse, avec des maximales entre 20 à Saint-Brieuc et 35 à Grenoble, 33 annoncés à Valence et au Puy-en-Velay, ainsi que Lyon, 31 à Marseille, à Saint-Étienne et à Cahors, 29 degrés à Agen et Clermont-Ferrand, ainsi que Besançon, 28 à Mont-de-Marsan et Brive-la-Gaillarde, 27 à Niort, 26 à Bordeaux, 24 à Caen et 22 à La Rochelle, atmosphère qui redevient respirable, notamment en midi toulousain et en midi pyrénées.
Merci beaucoup Valérie Darmon, rendez-vous 19h30 pour la météo des plages.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous Thierry Dagiral et votre interview Le Monde de demain dans un instant.
Oui, les médecins pédiatres Catherine Dolto entrent en studio, avec elle on va évoquer bien sûr le débat qui débute là en ce moment même à l'Assemblée et toute cette semaine sur la PMA. Comment en parler aux enfants? Va-t-on vers une société où la science remplace l'acte sexuel? On en parle avec vous, on en parle avec Catherine Dolto dans un instant. A tout de suite, merci.
Il est 19h19, vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Thierry Dagiral et c'est l'heure de l'interview Le Monde d'après. On réfléchit à ce monde de demain. Vous recevez ce soir Thierry, le médecin et pédiatre Catherine Dolto.
Bonsoir Catherine Dolto.
Bonsoir.
On l'a dit, hein, c'est un texte à haut risque qui revient toute cette semaine à l'Assemblée, le projet de loi de bioéthique qui ouvre la procréation médicalement assistée, donc la PMA, à toutes les femmes, aux femmes seules et aux couples de femmes. Les opposants à ce texte considèrent que la loi n'a pas à instituer de structure familiale sans père. Vous en pensez quoi, madame ?
Je pense que c'est très compliqué ces sujets-là et que c'est difficile d'en parler en quelques instants, ouais, parce que c'est un énorme sujet de société. Et je pense qu'on ne peut pas réfléchir trop globalement. De toute façon, il y a toujours un père. Il y a un père. Il faut un homme et une femme pour faire un enfant. Mmh. Alors après, il faut rentrer dans la différence géniteur, mmh, père, papa, mmh, mère, génitrice, maman, tout ça. Maintenant, il faut plus de vocabulaire pour parler de l'arrivée. Mais dire il n'y a pas de père, c'est faux, de toute
mais
façon.
Ça peut perturber un enfant, selon vous? Vous aviez écrit ce
bien
livre
sûr,
que vous m'avez amené, que j'ai consulté hier soir, L'aventure de la naissance avec la PMA, que vous avez coécrit avec Myriam Seger, chez Gallimard Jeunesse Édition. Ça peut perturber un enfant. Comment on parle de ça à son moment?
D'abord, il faut en parler le plus tôt possible.
À quel âge?
Ça dépend de la construction de l'enfant. À la naissance, ouais, parce que personne ne sait comment ça se passe, mais on sait que les bébés ont l'entendement, mmh, et surtout parce que ça détabouise la question. Et après, justement, il n'y a pas de règle. Il ne faut pas bassiner les enfants en leur balançant une vérité n'importe quand, n'importe comment. On sent le moment. Les enfants, quelquefois, ne posent aucune question parce qu'ils sentent que les grandes personnes sont trop fragiles sur la, mmh, question, donc ils se taisent. Donc, attendre que l'enfant pose des questions directes, ça ne va pas. Mais les enfants, ils posent plein de questions indirectes, en parlant des, ouais, pères, des copains, etc. Mmh. Mmh. Ou en tombant malade, ou en travaillant plus à l'école, ou en étant triste, et en enquiquinant tout le monde. Il y a plein de façons de poser une question. Et là, il faut sentir le bon moment. La vérité, ce n'est pas quelque chose qui s'assène n'importe comment, n'importe quand. C'est subtil.
Ouais.
Mais il faut dire la vérité. Parce que quand on est thérapeute...
Se construire sur la vérité.
Oui, moi je suis apto-psychothérapeute, ouais, et j'ai beaucoup en thérapie d'adultes qui cherchent leurs origines. Et c'est très, très douloureux. Donc, on ne peut pas parler avec légèreté tout ça. Dans toutes ces choses de PMA, je trouve qu'on ne parle pas assez de l'enfant. Qu'est-ce qu'il vit, lui? Qu'est-ce que ça représente pour lui? Et ça, c'est très important parce que l'enfance, c'est une période de construction.
Et justement, Catherine Dolto, le chapitre 2 du projet de loi répond à ce problème. Comment répondre, justement, aux besoins des enfants nés par PMA de connaître leurs origines? Pour l'heure.
Oui.
Il y a toute la semaine pour en parler, la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes est sanctionnée pénalement. Donc il faudra qu'ils attendent la majorité pour connaître leurs origines biologiques.
Oui.
Trop long? Impossible?
Ça dépend. Pour certains, oui. Pour d'autres, non. C'est très très compliqué de légiférer comme ça pour tout le monde, mmh, alors que ce sont à chaque fois des situations singulières et très très difficiles. Mais ce qui est sûr, c'est que quand les enfants cherchent leurs origines, mmh, et qu'ils y arrivent et que c'est trop tard parce que le géniteur ou la génitrice sont morts...
C'est du temps et de la vie.
Ça peut vraiment faire basculer les gens, mmh, qui allaient pas si mal que ça avant. C'est très difficile.
Docteur, est-ce que demain, on va vers une société de procréation sans sexe, finalement?
Quelle tristesse! J'espère que non.
Est-ce que c'est ça le monde de demain?
J'espère que non.
Certains opposants disent finalement voilà, c'est ça et c'est ça qui peut faire peur, qui peut déranger.
Bien sûr, parce que ce serait... On oublie que nous sommes des mammifères. Hein, on est... Alors, moi, personnellement, si c'est ça le monde de demain, je suis contente de... que je serais morte à ce moment-là. Parce que je trouve que c'est triste et qu'on voit bien comment c'est destructeur pour les gens. C'est pas vrai qu'ils vont mieux.
Ouais.
C'est pas vrai. On va pas mieux avec les téléconsultations, avec tout ce qui se passe, tout ce qui est dématérialisé. Les humains, ils ont besoin des humains. Mmh. Ils ont besoin de se voir, de s'entendre, de se toucher, de se rencontrer. Il y a un proverbe wolof qui est très beau qui dit « L'homme est le remède de l'homme.
Ouais.
Et tout homme est le gardien de son frère.
» Un dernier point sur ce technique, sur ce texte, c'est la technique dite ROPA, la possibilité d'autoriser le don de gamètes dirigés entre deux femmes si l'une d'elles souffre d'infertilité. Les opposants disent, ben voilà, c'est l'antichambre de la gestation pour autrui, la GPA. Vous dites non, pas la GPA. Il ne faut pas aller vers cela.
Écoutez, je n'ai pas très envie de m'expliquer en trois secondes sur une chose aussi difficile et complexe et grave. Est très très grave. Moi, je veux bien venir un jour vous parler que de ça. Mais là, comme ça, en trois minutes, dans une période où tout le monde est à cran,
ouais.
Voilà, d'un autre côté.
J'entends ce
vous
que vous
comprenez.
J'entends.
Quand on a beaucoup de patients qui souffrent.
Alors, juste une dernière question médicale, mais c'est important, vous êtes médecin. L'Église de France pose cette question. Est-il juste de demander à la Sécurité sociale de financer des actes techniques qui ne sont pas des soins?
C'est une grande question.
C'est une grande question.
Oui. Ça mériterait qu'elle se pose en tant que telle. Après, il y a tellement de soins qui ne sont pas pris en compte. Et il y a tellement de...
Ça veut dire que c'est considéré pour l'instant, enfin, dans les dires de l'Église de France, comme un produit de confort. C'est quand même...
Mais c'est très difficile de dire ça. Après, alors il faudrait quand même se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que cette histoire de désir d'enfant. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui pensent que le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est invivable, alors qu'on est dans un monde où il y a énormément d'enfants. Énormément d'enfants seuls. Donc c'est ça qu'il faudrait questionner. Qu'est-ce que ça signifie que ce besoin absolu d'identifier la réussite d'une vie, avoir un enfant. Aimer des enfants, on peut aimer plein d'enfants. Mais... On n'a pas besoin que ce soit sorti de notre ventre pour les aimer. C'est vraiment une question de notre époque où tout est consommation. Nous sommes devenus avant tout des consommateurs. Ouais. Et quelquefois, il faut avoir un enfant comme on aurait autre chose. Et je pense qu'il faut élever le débat, c'est à un autre niveau.
Docteur Dolto, vous êtes médecin généraliste.
Non, pas du tout.
Vous n'avez pas de cabinet de médecine générale?
Non, mais non, ça fait 30, je serais très dangereuse comme médecin. Moi, je fais de l'aptonomie, qui est la science de l'affectivité.
Mais donc, à la base, vous étiez médecin généraliste.
Oui, parce
donc,
que...
Donc, c'est bien le cas de ces médecins de ville.
Oui, parce que 8 jours avant, j'étais médecin de PMI, 8 ouais. jours avant de passer le dernier concours de pédiatrie.
Ouais.
Je me suis dit, oh, mais je ne veux pas D'accord. arrêter de soigner des grandes personnes, donc je n'ai pas passé le concours, mais D'accord. j'ai travaillé D'accord. comme pédiatre à l'hôpital D'accord. pendant des années. D'accord. Voilà la vérité.
Il y a eu quelques jours, on en parlait bien sûr sur Europe 1 la semaine dernière, il y a eu le deuxième volet du Ségur de la santé. Pour vous, c'est une avancée importante pour l'hôpital ou uniquement pour l'hôpital public?
Non, je pense que c'est une avancée importante dans la mesure où quand même on a pris la mesure de la honte du salaire qu'on donnait à ces gens qui travaillaient comme des fous avec un engagement très fort.
Ouais.
Mais le problème n'est pas là, le problème est dans la gestion administrative de l'hôpital, dans ce vouloir
ouais.
Faire fonctionner un hôpital comme une entreprise.
Ouais.
Ça, c'est dingue. Et tant qu'on aura la T2A, vous savez que la Fée Carabosse a changé de nom, elle s'appelle la T2A maintenant, la Fée Carabosse, qui détruit le métier des soignants. Les sages-femmes, c'est épouvantable ce qu'elles vivent, parce que tout ce travail d'accompagner les femmes, ça ne coûte rien, ça ne rapporte rien. Donc tant qu'on ne s'attaquera pas ça, à cette volonté de réduire l'hôpital à une machine à faire de l'argent gérée par des administratifs, il n'y aura pas de grandes avancées.
Donc vous dites que ce n'est pas suffisant, il faut encore continuer non,
il faut
et aller plus loin.
Oui, il faut penser pas que des histoires d'argent, ouais. c'est beaucoup plus. Et puis il y a la coupure médecine de ville, médecine de l'hôpital, ça devrait être un maillage. Médecine de ville, ouais. hôpital privé, hôpital public. Et le grand drame, c'est la psychiatrie et la prise en charge des enfants qui ont besoin de psychothérapie et qui n'ont pas... On a détruit. Je ne pensais pas de mon vivant voir être détruit autant de systèmes organisés qui aidaient les gens à vivre mieux. Et la bonne médecine, elle est préventive. Quand un enfant va mal, il faut le soigner vite, pas lui donner rendez-vous dans un an. Ouais. Il a le temps de se détruire. Or, maintenant, c'est ça.
Catherine Dolto, ce soir sur Europe 1. Un grand merci à vous, madame. Merci beaucoup. Europe 1.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Thierry Dagirel.
Restez avec nous, 19h30, tube d'été avec un tube de 1987. Et puis à 19h42, France, on part en balade ce soir, direction la belle Bourgogne. Ne bougez pas, vous êtes sur Europe 1, on revient tout de suite.
Sur Europe 1, votre grand journal du soir, Thierry Dagirel.
Avec le rappel des titres, François Claus.
Depuis le début de l'après-midi, les pompiers en Gironde luttent contre un incendie de forêt qui a détruit un peu plus de 150 hectares de pins au sud de Bordeaux, à une soixantaine de kilomètres. 4 bombardiers d'eau sont mobilisés, plus de 60 pompiers sur place. Le feu attisé par les vents est difficilement maîtrisable et plusieurs hameaux à titre préventif ont été évacués dans l'après-midi. Diagnostic confirmé pour Mbappé, sorti sur blessure lors de la finale de la Coupe de France. L'attaquant parisien souffre d'une entorse. Il sera indisponible, dit le PSG, pour environ 3 semaines. Cela pourrait le priver de son quart de finale de Ligue des Champions lors du tournoi de Lisbonne le 12 août prochain. La ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher au chevet de Nokia à Lannion dans les Côtes d'Armor, après l'annonce par le géant finlandais des télécoms d'un plan de suppression de 1200 emplois en France, dont 400 pour le seul site breton. Le fret ferroviaire de nouveau sur les rails. Après la promesse du président de la République, Jean Castex annonce une réduction des frais de péage pour les autoroutes ferroviaires et la relance de 3 grandes lignes, notamment le Perpignan-Rungis qui avait été fermé il y a quelques semaines. Et le ministre délégué au commerce extérieur annonce de son côté que les foires et salons professionnels, grosse source de revenus, on le sait, en France et à Paris, pourront rouvrir dès le 1er septembre prochain. La bourse ce soir à Paris, le CAC 40 en baisse de 0,34% à 4939 points.
Merci beaucoup François, à demain.
À demain.
La météo des plages à présent, Valérie Darmon, on va sur la Côte d'Azur. Il va faire très beau là.
Allez, très très beau. Alors là, pas un nuage à l'horizon, même pas d'entrée maritime, pas de vent non plus, ni Mistral, ni Tramontane, et une mer très très calme, entre 21 et 25 degrés, et sur vos plages demain, 30 degrés en moyenne, que ce soit dans l'Hérault, que ce soit dans les Alpes-Maritimes. Sur la Manche, évidemment, beaucoup plus frais, parce qu'il y a une succession de perturbations depuis quelques jours, hein, j'en parle suffisamment à l'antenne notamment, ainsi que Laurent Cabrol, avec des valeurs sur le sable, sur les plages normandes, entre 18 et 23 degrés, avec une eau très calme, exactement à la même température, 17 dans le Cotentin et 20 dans la baie du Mont-Saint-Michel. Pour l'arc atlantique, toujours quelques nuages qui traînassent en ce mardi, notamment sur la partie nord, depuis le Finistère sud jusqu'au sud Bretagne, ainsi que sur la côte basque et sur les Landes, assez nuageuses hein, d'ailleurs au large de Biarritz, avec un océan assez peu agité également, entre 17 et 23 degrés, et sur le sable, entre 21 et 23 également.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Thierry Dagirel. Dans un instant, direction la Bourgogne pour Douce France. Mais tout de suite, place à la culture avec Angèle Châtelier et Mathieu Charrier.
Et bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
On commence comme tous les soirs après 19h30 par les tubes d'été avec Angèle Châtelier. Quelle année ce soir?
87.
Joe le taxi.
Je suis sûre que là, il y en a qui se disent non pitié, pas de Joe le taxi, parce que c'est vrai qu'en 87, quand elle est sortie cette chanson,
vous aviez le 45 tours.
J'avais le 45 tours. Et j'étais amoureux de Vanessa Paradis.
Mais ça, mais comme beaucoup, je pense. Ouais. Mais elle a inondé les radios.
Joe le taxi.
Alors Vanessa Paradis n'a alors que 14 ans et elle est propulsée dans le succès. Ça c'est grâce à son oncle, habitué du showbiz, qui appelle son ami Franck Langolf, lui disant qu'elle a du potentiel. Franck Langolf, c'est celui qui est derrière Morgane de Toi, de Renault notamment.
Tu me racontes que tu veux un petit frangin, tu veux que je t'achète un ami Pierrot. Hey, les bébés ça se trouve pas dans les magasins, et je crois pas que ta mère...
Franck Langolf, donc, derrière la musique de Joe le Taxi, Étienne Rodagil en signe les paroles.
Et Angèle, on a retrouvé le fameux Joe le Taxi.
Alors c'est la fameuse, ouais. Joe est une femme qui transportait des célébrités à l'époque et dans sa caisse, la musique à Joe résonne.
Dans sa caisse, la musique à Joe, c'est la rumba, le vieux rock.
Joe le Taxi est un carton, la chanson se vend à 3 millions d'exemplaires, dont un pour vous Thierry.
C'est vrai.
C'est vrai. Vanessa Paradis enchaîne les plateaux
de
télé.
Maintenant, peut-être.
C'est vrai. Alors,
si vous... ça a été vendu à 3 millions d'exemplaires, je ne suis pas sûr que ça vaille de l'or.
Ça peut, ça peut. Vous devez vous souvenir donc de son déhanché, de sa voix candide et son visage de poupée. Avec lequel, enfin, grâce à tout ça, elle devient l'image de la Lolita à la française. Mais alors, elle énerve aussi, au point que lors de l'une de ses prestations au Midem en 1988, on entend les huées derrière. Il faut vous imaginer qu'elle a 14-15 ans, c'est quand même assez violent. Mais alors, Joe le Taxi s'exporte rapidement à l'étranger, au point qu'au Royaume-Uni, le titre devient le premier chanté en français à atteindre le top 3 des ventes depuis « Je t'aime moi non plus » de Gainsbourg et Birkin.
Je t'aime, oh oui je t'aime. Oh mon amour.
Comme la vague, irrésolue. Je veux...
Voilà, je... Donc en 1987 ce soir, grâce à vous Angèle Châtelier, avec Jo le Taxi de Vanessa Paradis. Tout l'été, Mathieu Charrier, vous nous conseillez de lire ou de relire les meilleures bandes dessinées sorties cette année.
Oui.
Aujourd'hui, on parle de la crise de la cinquantaine.
Suivez mon regard. Avec les couloirs aériens, la dernière bande dessinée d'Étienne Davodeau. Alors, je vous plante le décor et oui. Je suis sûr que beaucoup d'auditeurs vont s'y reconnaître. Oui. Yann à la cinquantaine, le crâne un petit peu dégardi, la bedaine, bon, qui a un peu poussé. Puis surtout, bah, c'était pas son année. Il vient de perdre coup sur coup sa maman, son papa et son emploi. Autant vous dire que ça va pas très fort. Alors, il décide d'aller passer quelques jours dans un chalet que lui prête son vieux pote, dans un petit village du Jura, sous la neige. C'est ici que plus jeune, avec copains, femmes et enfants, il venait se ressourcer à la moindre occasion. Cette fois, ses seuls partenaires, c'est une bouteille de vin jaune, on est dans le Jura, et puis ses cartons remplis de ce vieux objet, de ceux de ses parents, comme autant de souvenirs d'une vie, et bien sûr ce sentiment de nostalgie. Mais pas que, c'est ce qu'explique Étienne Davodeau.
C'est un gars qui regarde s'enfuir sa jeunesse, qui regarde ses enfants grandir. Mais en même temps, il a amené avec lui des tonnes d'objets, des objets de la maison de ses parents. Il balade des caisses lourdes avec lui, au sens propre comme au sens figuré. Donc la nostalgie, elle est dans ces caisses en question, ça c'est sûr. Il n'y a pas que ça, je pense pas. Il est dans la situation du gars qui se laisse un peu couler et qui va prendre un pied d'appel au fond avant de remonter. Donc il y a aussi ça, à 50 balais, on n'est pas grillé, contrairement à ce que nous on pensait à 19 ans. Il reste 2-3 choses à faire. Donc il y a la nostalgie, oui, mais pas seulement.
À 50 balais, on n'est pas grillé.
Je vais retenir ça.
Thierry, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce livre, parce que certes, dans ce chalet, le temps passe lentement, mais finalement, c'est plutôt agréable. Et en plus, Yvan, bah, il se redécouvre, il réapprend à séduire, à aimer, à se faire aimer, notamment de ses enfants. Bref, c'est une super BD bourrée de tendresse, comme souvent avec Étienne Davodeau. Ça s'appelle Les couloirs aériens, et vous trouvez ça chez Futuropolis.
Et ça donne envie une fois de plus grâce à vous. Merci beaucoup, Mathieu Charrier.
Et tous les soirs, le coup de fil culture, la culture qui doit se réinventer cet été, Thierry.
Exactement, Europe 1 vous accompagne cet été. Bonsoir Antoine Coudray.
Bonsoir.
Nous sommes à Noirmoutier avec vous, vous êtes le coordinateur de la Déferlante, ça commence ce soir. Donc à Noirmoutier, c'est complet ce soir. Demain à Saint-Jean-des-Monts, puis Saint-Brévin, une dizaine de villes, c'est ça, un spectacle qui mêle cirque et musique classique ?
Oui, c'est exactement ça. C'est la compagnie d'Irkéfin avec le spectacle Sol Bémol qui commence à tourner ce soir. On est vraiment là-dessus, du circassien avec de l'aérien sur de la musique classique jouée en direct. Il y a des pianos et voilà, les pianos s'envolent, les artistes s'envolent, tout le monde s'envole. En fait. Ouais. C'est très onirique, en fait, c'est très beau, c'est vraiment un superbe spectacle.
27e année, hein, mais c'est bien sûr une année particulière avec la pandémie. D'habitude, c'était quoi, 100 000 spectateurs ? Comment ça va se passer là, ces soirs-là ?
Ouais, alors d'habitude on est à 100 000 spectateurs, en effet là on sera à moins puisque du coup on réduit la jauge tout simplement de manière à pouvoir continuer à proposer des spectacles. Donc là où on avait 1500 personnes à peu près, on va dire, sur les années précédentes, et ben là on est...
Ah, Antoine Coudray.
Tout à fait, on est vraiment fiers, on est super contents de retrouver les spectateurs.
Écoutez.
Voilà, sur à peu près dans l'été.
Super, bah écoutez, donc on a cité les villes, c'est très poétique, c'est vraiment à ne pas rater si vous êtes dans le coin. Et en plus, les places sont quasiment gratuites, je crois. Hein.
Alors c'est gratuit partout ou presque. En fait, vous pouvez regarder sur le site www.ladéferlante.com.
Ouais.
Il y a quelques dates qui sont à prix modique 2 euros, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et voilà, 90% de la programmation est gratuite de toute façon, en effet.
Bravo à vous, bonne première ce soir, Antoine Coudray. Merci à vous, merci beaucoup.
Merci beaucoup, au revoir.
Suivre dans votre grand journal d'histoire, Thierry Dagiral.
Et c'est tous les soirs dans ce 18-20-12 France. On redécouvre nos belles régions de France. Ce soir, on part en Bourgogne. Embarquement immédiat dans 2 minutes sur Europe 1.
Votre
Votre grand journal du soir est en balade tous les soirs sur Europe 1, 12 France avant 20h avec le plein d'idées sorties, des visites, la découverte de délicieux produits régionaux. Et ce soir, Thierry, nous sommes en Bourgogne.
Oui, Géraldine, dans le Lyon, exactement au pays de Colette, aux côtés du château de Saint-Fargeau. On est à 2 heures au sud-est de Paris. Je vous propose de participer à la construction d'un château fort. Rien que ça. Bonsoir Marilyn Martin.
Bonsoir.
Vous êtes présidente et cofondatrice de Guédelon. Et donc, vous proposez de continuer la construction de toute pièce d'un château fort du XIIIe siècle. Racontez-nous.
Écoutez, on continue, puisque ça fait maintenant 22 ans qu'on a posé la première pierre de la construction d'un château du XIIIe siècle. Donc ça paraît un peu bizarre, notre histoire. Mmh. Et en fait, l'idée, c'est de construire pour comprendre, donc de la première pierre à la dernière tuile, un château fort de la période de Philippe Auguste. Donc l'idée, c'est bien évidemment de travailler avec tous les métiers, les grands métiers mythiques des bâtisseurs, les tailleurs de pierre, les forgerons, les charpentiers, et de travailler bien évidemment à la main et de transformer un espace naturel, une carrière, une forêt.
Dingue. Et de comprendre justement comment ces matériaux étaient acheminés jusqu'à chez vous, etc. C'est ça, hein ?
Oui. On a bien évidemment une armée d'archéologues, de scientifiques, de castellologues qui travaillent avec nous et qui vérifient et qui suivent notre chantier pour bien veiller à ce que ce chantier soit crédible archéologiquement. Mmh. Et bien évidemment, comme vous l'avez proposé, ce chantier se visite. On peut passer la journée à découvrir ce qui a déjà été construit, à découvrir les chantiers en construction et à suivre les ouvriers. Il y a à peu près une bonne quinzaine de métiers représentés à Guédelon.
Ah, ça, c'est vraiment très bien, c'est à faire avec les enfants. Les tarifs, merci à vous, Marilyn Martin, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Géraldine, les tarifs ?
Oui, c'est 15 euros pour les adultes, 11 à 12 euros pour les enfants et toutes les informations sont à retrouver sur guédelon.fr.
Alors, on a construit, maintenant on va marcher. Je vous propose d'aller au Mont Beuvray qui culmine à 821 mètres. Nous sommes dans le massif du Morvan. Bonsoir Maud Domingue.
Bonsoir.
Alors, votre société, c'est la société Échappée Morvan d'El. Vous êtes fauconnier, c'est ça. On est à 1 heure de Nevers, à 1 heure de Chalon. Et on va grimper avec vous sur ce fameux Mont Beuvray, très tôt le matin.
Oui, pas trop tôt non plus, 10 heures. Quoi.
Ça va, c'est relativement...
À la fraîche.
À la fraîche. Comment ça se passe? Il y a combien de kilomètres? C'est un circuit de combien de kilomètres? Combien d'heures?
C'est un circuit de 2 km environ qu'on met 2 heures à faire. Donc, ça relève plus de la balade que de la rando sportive, on va dire.
Donc, on peut amener les enfants sans problème ?
À tout public. Des enfants, des papis, des mamies, tout public.
D'accord. Qu'est-ce qu'on y croise au niveau faune, là, en se baladant, alors ?
Alors, faune locale, on peut croiser pas mal d'oiseaux. On peut croiser aussi pas mal de mulots. Et nous, en fait, on emmène des rapaces... dressés, quoi, qui vont nous suivre pendant la balade et qui vont s'amuser avec nos randonneurs, quoi, qui vont voler autour, devant, derrière, qui vont frôler les gens avec le bout des ailes, frôler une joue, frôler une épaule.
C'est
nos buses. Hein, on emmène 2 buses et qui s'amusent un peu, donc qui au fur et à mesure de la balade s'acclimatent de plus en plus par rapport aux gens, les acceptent un peu dans leur groupe et s'amusent ensuite, font confiance aux gens et posent pour la photo. Enfin, voilà.
Dites-moi aussi, Marilyn, on croise et on passe devant des vestiges également, hein?
Oui, alors on tourne autour des fouilles, donc on voit quand même quelques vestiges, dont une fontaine à vœux,
une
très vieille fontaine.
Ouais.
Pour si vous voulez avoir des enfants,
Bien.
Voilà. Et puis une petite chapelle aussi où on faisait bénir les troupeaux et où aujourd'hui on rencontre parfois des cérémonies druidiques.
D'accord,
Donc c'est assez magique comme lieu.
Là encore, on se régale, on fait du bien au physique et en plus on apprend. Donc ça, c'est formidable.
Oui, exactement.
Grand merci à vous, Marilyn Martin. Merci beaucoup.
Mais c'est moi.
Oui,
Géraldine,
au revoir, merci à vous. On va donner les tarifs également.
Oui, tout à fait. Pour la randonnée avec les rapaces le matin, c'est 21 euros par personne. C'est gratuit pour les enfants jusqu'à 7 ans.
Ouais.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur fauconbrionnet.fr.
On dort où ce soir? Une bonne adresse avec vous, Philippe Viguier, des places du Figaro Magazine. Bonsoir, Philippe.
Alors Thierry, je vous emmène au Grand Hôtel de la Cloche, en plein cœur de Dijon. Alors le nom fait pas forcément rêver, mais le lieu est mythique. Depuis 1884, il n'a jamais été détrôné comme plus bel hôtel de la ville de Dijon. Son seul 5 étoiles, 88 chambres, toutes refaites ces dernières années. Il y a un spa de poche assez petit, Mais l'hôtel a surtout une botte secrète, un jardin intérieur, un vrai petit morceau de campagne en plein centre-ville, arboré avec de la fraîcheur. C'est tout ce qu'il nous faut aujourd'hui.
Les tarifs, Philippe ?
Allez, je vous fais une chambre autour de 150 euros environ. Grand hôtel de la Cloche à Dijon. À demain.
Merci Philippe, à demain bien sûr.
Et à suivre dans Douce France, Thierry Dagiral.
Alors on va rester en Bourgogne, on va rendre visite à nos producteurs. Et puis là on est en train de manger du cassis. Marion Sauveur vient de nous amener des petites choses délicieuses à déguster.
Bon.
Donc producteurs, restaurateurs, on les met à l'honneur sur Europe 1 dans un instant. À tout de suite.
Et on poursuit notre balade ce soir dans le Grand Journal du Soir. Dans Douce France, on se met à table. Nous sommes en balade en Bourgogne ce soir, Thierry.
Bonsoir Marion Sauveur.
Bonsoir.
Alors, vous nous avez apporté une petite baie.
Ben oui, c'est du cassis, un joli petit fruit rond, noir, plein de peps en bouche et qui avoisine les parcelles de raisins, bien sûr, en Bourgogne. Alors, ce sont là des fruits de table que vous avez sous les yeux, mais on n'a pas toujours consommé les fruits du cassisier. On utilisait surtout les feuilles en infusion pour leurs propriétés médicinales. Et la Bourgogne est devenue patrie du cassis depuis le XIVe siècle. L'arbuste a été implanté par les moines cisterciens et il y est bien, notamment dans les hautes côtes de nuit. C'est là d'ailleurs où je vous emmène ce soir. Alors on quitte le Morvan direction Dijon et la ferme Fruits Rouges à Nuits-Saint-Georges. Nuits-Saint-Georges que vous connaissez forcément hein, si vous êtes amateur de vin de Bourgogne. Et oui, on arrive chez Isabelle Olivier sur la place de l'église du hameau de Conqueur. Elle nous accueille dans sa jolie ferme, un magnifique bâtiment en pierre.
Bonsoir Isabelle Olivier.
Bonsoir Thierry.
Vous êtes productrice.
Bonsoir Marion.
De... Vous
Bonsoir.
Êtes productrice de cassis alors avec votre mari. Et ça c'est depuis 7 générations.
Bah mon mari oui il est tombé dedans depuis tout petit.
C'est comme ça. C'est délicieux, on est en train d'en goûter là. 25 ans que vous tenez donc la ferme avec votre époux, c'est bien ça?
Oui c'est ça. En fait on s'est rencontrés en vendange. Vous savez chez nous les vendanges c'est la meilleure agence matrimoniale du coin. Et puis on n'a pas besoin de faire une émission de télé.
C'est ça, voilà.
Et puis, en fait, Sylvain, il était passionné de cuisine. Et puis, lui, il voulait bien être paysan, mais il voulait mener sa matière première au bout. C'est-à-dire produire, mais pas pour vendre à l'industrie, mais pour transformer, vendre en direct.
Alors, puisque le bonheur est dans le pré, comment on choisit le cassis?
Alors, le cassis, il y a beaucoup de variétés différentes du cassis. Donc, ça dépend ce que vous allez vouloir en faire. Est-ce que vous voulez faire de la confiture, de la crème de cassis? Chez nous, le roi, c'est le noir de Bourgogne pour la crème de cassis.
Bah oui.
Oui, oui. D'accord,
Et si on veut le manger, alors?
Alors, si vous voulez le manger, il y a des variétés plus douces. Oui, parce que le cassis, c'est assez acide, c'est assez astringent.
Mais c'est acide.
Oui.
Donc, en général, on lui ajoute du sucre. Mmh. Donc, c'est notamment pour la gelée ou pour les confitures.
Ouais.
Et puis, par exemple, nous, on fait un beurre de fruits, du beurre de cassis. Donc là, on va utiliser une variété douce qui s'appelle le Black Don.
Ouais.
Et puis, on va le faire réduire pour en faire une purée de fruits.
C'est bon, pareil.
C'est très bon.
Et on va ajouter juste une petite pointe de sucre, en fait, avant de mettre en pot pour casser l'acidité.
D'accord. Et la récolte, ça y est, c'est terminé. Là, c'est au mois de juillet. Maintenant, c'est fini, hein?
Oui, c'est toujours autour du 14 juillet. Ouais. Maintenant, on prend un petit peu d'avance. On peut dire que c'est entre le 1er et le 10 juillet.
D'accord. Vous nous proposez aujourd'hui une vingtaine de produits. Qu'est-ce que vous réalisez à partir du fruit, mais pas seulement?
Alors, on travaille en fait le bourgeon, la feuille et le fruit.
D'accord.
Avec le bourgeon, on va faire de la vodka au cassis. Donc là, en fait, on va faire infuser les bourgeons de cassis dans de la vodka.
Mmh.
Donc, ça va nous donner un alcool très vert, très végétal, qu'on va surtout utiliser en cocktail.
D'accord.
Après, on va utiliser la feuille qu'on va faire distiller.
Ouais.
Donc là, on fait un hydrolat. Un hydrolat, c'est une eau florale, comme l'eau de fleur d'oranger ou l'eau de rose.
D'accord, parfait.
Voilà, et on dit que l'hydrolat de cassis, c'est l'eau des rhumatismes.
D'accord, ah oui. Donc c'est très bon pour...
Et avec les fruits, vous faites notamment du ketchup, du sirop de cassis, beaucoup d'autres choses. Hein.
Oui, on a commencé par des choses très classiques, et puis après on s'est amusé, pour nos 10 ans, on a sorti un ketchup de cassis.
Oui, on goûte,
c'est surprenant.
On goûte le ketchup que Marion nous a amené.
Bon.
Donc le ketchup au cassis, vous pouvez le manger à l'apéritif avec des gougères, du jambon persillé, du comté, des petits légumes. Après, vous pouvez le cuisiner. En ce moment, c'est la saison des barbecues, donc il est idéal pour accompagner. Ce n'est pas seulement pour manger les frites.
Parfait.
Et non, avec une viande, c'est parfait.
Bon, parfait, écoutez.
Oui, avec un magret de canard.
Merci, merci. Oui, allez-y, finissez, Isabelle, je vous en prie.
Vous pouvez accommoder les restes du frigo, c'est-à-dire sur une tartine de pain, vous mettez du ketchup au cassis, vous mettez un vieux fromage qui commence à être un peu fort, et puis vous faites gratiner ça au four, c'est délicieux.
Merci beaucoup Isabelle Olivier, vous faites partie, on le rappelle, du réseau Bienvenue à la Ferme, et on peut venir découvrir vos produits à la ferme Fruits Rouges. Marie, on va reprendre la route ?
Et oui, on va passer à table, cette fois on quitte Nus-Saint-Georges par la départementale 974, on part à 20 km, direction le sud, on s'arrête à Beaune, au bistrot avec un Z, là où nous attend le chef Sébastien Henri. Il propose une cuisine gourmande, savoureuse, à partir de produits frais et locaux.
Bonsoir Sébastien Henri.
Bonsoir Thierry, bonsoir Marion, bonsoir tout le monde.
Vous aimez aussi travailler le cassis. Comment vous, le travaillez alors ? Allez, faites-nous rêver un peu là.
Alors nous, on a plusieurs façons de le travailler.
Ouais.
En ce moment, alors on a sorti pour l'été, un burger.
Ah oui ?
Ouais, voilà, un burger avec que des produits bourguignons.
Ouais.
On va réaliser un...
C'est quoi, c'est un confit? Ouais.
Ouais, un confit de cochon. En fait, une échine confite.
Ah ouais.
Épilochée, assaisonnée, reroulée, repressée, snackée pour avoir un côté caramélisé du cochon.
Oh, c'est pas mal.
Et très fondant à la fois. Avec ça, on met un confit d'oignon, au cassis, bien sûr.
Mmh. Avec des baies entières.
Voilà, avec les baies entières. On va mettre un bon lard croustillant dedans, on va mettre un peu de salade, un peu de tomate, des pickles de concombre, et on va finir avec le ketchup de cassis de la ferme Fruits Rouges parce qu'on l'adore.
Ah, c'est pas mal ça.
Donc c'est vraiment un produit très 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 bon.
Et dites-moi, Sébastien, vous proposez aussi le cassis avec les viandes de chasse ?
Oui, ouais, ouais,
ça
exactement.
Ça marie bien. Bah,
voilà, ce côté très, très acide et très puissant va venir... un peu casser le côté fort de la chasse, donc c'est vraiment très intéressant.
D'accord.
Et même en ce moment, on n'a pas de gibier de chasse, mais j'ai eu des super belles pintades et je me suis amusé avec les cuisses à faire des cuisses de pintade en boudin blanc. Mmh. Et dedans, j'ai ajouté une soubise, donc c'est une réduction d'oignon, de crème, auquel j'ai ajouté des baies de cassis. Et du coup, on a fait des boudins blancs de pintade au cassis. Et c'était vraiment très bien.
Mal.
En tout cas, ça plaît beaucoup. On l'a en ce moment à la carte et ça plaît beaucoup.
Et Sébastien, en 10 secondes, un dessert à base de cassis ?
Un dessert à base de cassis. Qu'est-ce qu'on a à base de cassis en dessert ?
Des figues.
Voilà, les figues, c'est vrai. Une figue rôtie à la crème de cassis.
Ah ouais.
Tout simplement au four, on arrose les figues avec un petit peu de crème de cassis. On peut mettre même une branche de thym, ça va parfumer. Et c'est vraiment très gourmand. En base, on fait un petit financier ou un biscuit
super
gourmand.
Allez.
Et c'est un dessert fabuleux.
Non, je t'ai plus, non, je t'ai plus. On vient ce soir. Merci. Merci Sébastien Henri. On déguste en ce moment votre burger donc au bistrot. C'est
exact.
À Beaune. Merci beaucoup Marion Sauveur. On se retrouve bien sûr demain. Demain matin, vous serez auprès de François Geffrier dans la matinale.
Et oui, on parlera de fleurs de courgettes et on la cuisinera ici demain soir. On ira dans le Luberon dans Douce France.
Quel plaisir encore. Allez, à demain soir. Merci Marion. Bonne soirée. Dans un instant, le festival idéal des mini-mazoyers, c'est tout l'été sur Europe 1 avec des lives ce soir. Les Wou à Hyde Park et Renaud en live.
Lola. Je suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas.
Renaud en live ce soir chez Émilie, à ne pas rater. Merci beaucoup Géraldine.
Merci Thierry.
On se donne rendez-vous
demain,
bien sûr. Merci à toute l'équipe qui m'a préparé cette émission. Christophe Pierrot à la réalisation. On se retrouve demain dès 18h avec plaisir sur Europe 1 pour écouter ensemble le monde changer. Et dans une poignée de secondes, les infos de Victor Delande, mais tout de suite la météo. Valérie Darmon, chaud demain, chaud devant.
Oui, bah un peu moins chaud tout de même demain qu'aujourd'hui. Il faut dire que les maximales, elles ont atteint 39,9 degrés à Albi dans le Tarn, 38,9 à Palamini en Haute-Garonne, 38,9 à Cahors dans le Lot et 38 à Montauban aujourd'hui. Évidemment, à l'ombre et sous abri. Et bien demain, les valeurs seront moins caniculaires, accusant une baisse de 5 à 8 degrés. Alors, côté ciel, le nord-ouest, surtout en Bretagne, vous allez retrouver des éclaircies de plus en plus belles au fil de la journée avec des températures tout juste de saison. Du Val-de-Loire au bassin parisien, Hauts-de-France, le ciel qui est assez nuageux en début de matinée, dans une grande douceur, et puis les éclaircies vont parvenir à s'imposer. Du sud-ouest aux régions de l'est, attention, le ciel est chargé avec des ondées et surtout des orages depuis le massif central, jusque la Savoie ou jusqu'au Jura. Et puis le pourtour méditerranéen est épargné par tout cela, ce sera grand beau toute la journée.
Merci Valérie.